Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Dans la précédente émission, nous avions commencé la lecture du récit du dernier repas de Jésus dans l'évangile de Jean. Et nous avions commenté l'épisode bien connu du lavement des pieds. Nous étions parvenus au verset 19, qui est assez énigmatique. Je le relis pour que vous puissiez, Père Alain, peut-être nous éclaircir ce verset. « Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. » Que signifie ce « je suis » que dit Jésus ?
Alors, dans l'évangile de Jean, nous avons une référence qui est faite plusieurs fois à cette idée de Jésus présenté comme « je suis ». C'est-à-dire, l'évangile de Jean, vous le savez, c'est le dernier des évangiles, c'est le plus accompli, on pourrait dire. Là où les autres ont décrit Jésus annonçant le royaume, Jean décrit Jésus comme le royaume. Il est l'être même qui dit le royaume. Il y a un au-delà par rapport aux autres évangiles. Et donc, ce « je suis » nous inscrit dans la filiation de la tradition biblique, c'est-à-dire le « je suis » du Sinaï révélé à Moïse, « je suis qui je serai », est repris par Jésus à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, et seulement dans l'évangile de Jean, pour signifier que lui, être humain, en vérité, profondément humain, est aussi la figure divine qui nous est envoyée par son Père. Donc ce « je suis » ponctue régulièrement la présence symbolique et forte de Dieu dans la personne de Jésus.
Alors, nous poursuivons la lecture du texte au chapitre 13, au verset 21. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Dans ce passage, Jésus, qui avait déjà fait quelques allusions, confirme qu'un de ses disciples va le trahir, et il en est bouleversé, mais il ne le nomme pas. C'est alors qu'entre en scène le disciple que Jésus aimait. Quel est ce mystérieux disciple qui demande à Jésus de désigner celui qui va le livrer, Père Alain ?
Alors si j'avais la réponse, je vous la donnerais tout de suite, mais jusqu'à ma connaissance, jamais personne n'a trouvé une solution tout à fait satisfaisante pour rendre compte de ce disciple. Ce qui se dégage un peu aujourd'hui dans l'appréciation, on est convaincu que c'est un disciple particulier, différent des autres, qui sans doute est issu peut-être du milieu de Jean-Baptiste, qui était certainement de Jérusalem, à la différence des autres disciples. Mais si on va au fond de votre question, on voit bien que c'est l'art narratif de l'évangéliste qui nous est présenté là. C'est-à-dire apparaît pour la première fois dans l'évangile de Jean ce disciple que Jésus aimait, dont nous ne saurons pas le nom, mais il est toujours qualifié comme le disciple que Jésus aimait. C'est-à-dire, il apparaît au moment où la passion entre dans son dernier moment décisif, et le disciple que Jésus aimait va cohabiter, on pourrait presque dire, avec Pierre, avec ses parfois tergiversations, on l'a vu, et puis Judas, celui qui allait trahir. Et donc, ce disciple que Jésus aimait, à partir de maintenant, va être un peu celui qui va conduire Pierre, qui va empêcher Pierre de basculer complètement et qui va donner sens au destin de Pierre dans son côté un peu tragique, dans son infidélité aussi parfois, mais aussi dans sa fidélité assez difficile. Vous avez remarqué cette belle image qui clôt le texte que vous venez de lire, il faisait nuit. C'est symbolique, il y a à la fois, c'est pas simplement une connotation purement temporelle pour signifier qu'on passe de la journée au jour à la nuit, non, il faisait nuit. Comme si on voulait nous dire, nous sommes dans une période nocturne, symboliquement, c'est la nuit que traverse Jésus et que traversent aussi tous les disciples qui sont là, les uns de manière dramatique et les autres peut-être dans une fidélité plus véritable.
On aurait pu dire crépusculaire. Oui. La scène où Jésus donne une bouchée trempée dans le plat à Judas et lui demande de faire vite ce qu'il a à faire n'est pas facile à décrypter, surtout quand Satan s'en mêle en entrant dans Judas. Comment lire ce passage, Père Alain ?
Je sais que vous êtes un passionné de Judas, puisque vous êtes en train de lire un livre sur Judas. Je peux vous dire que il a été écrit beaucoup de livres sur Judas. Judas fascine le monde depuis toujours. Vous savez, les traîtres sont toujours des gens qui fascinent. Parce que comment accepter que quelqu'un qui a vécu dans la fidélité, dans l'amitié, dans la tendresse, avec une telle figure que Jésus, comment a-t-il pu le trahir ? C'est un mystère. Et comme on dit quelquefois, on aurait pu faire tout un entretien sur Judas tout seul. On a dit quelquefois avec un peu d'humour, quand on lit l'évangile jusqu'à la passion, le disciple le plus parfait, c'est Judas. Mais en même temps, il est toujours qualifié, avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, il est toujours qualifié dès son appel, dès sa vocation, c'est celui qui allait le livrer. C'est rude, on aurait pu attendre qu'il le livre pour le qualifier ainsi. Non, il est depuis le début celui qui allait le livrer. Comme si, et moi c'est une de mes lectures que je préfère, comme s'il avait un destin de prédestination, comme s'il était prédestiné à jouer un rôle qui le déborde, et comme s'il était destiné à jouer le rôle, au fond, Satan entrant en lui. C'est-à-dire, c'est pas lui, c'est Satan qui joue le rôle du traître, parce que venant de lui tout seul, c'est difficile à concevoir. Mais ce serait un autre drame que de commenter la figure de Judas.
Alors, ce verbe « livrer », il est un peu particulier, c'est pas dans le langage d'aujourd'hui, c'est du domaine commercial. Là, est-ce que on peut considérer que le verbe livrer est vraiment synonyme de trahir ?
Mais livrer, il faut le prendre au sens étymologique, parce que vous évoquez sa signification aujourd'hui, on livre des marchandises, mais livrer quelqu'un, c'est le livrer, c'est encore pire si vous voulez, vous le livrez, vous le transporter, vous le faites passer dans un autre monde qui est un monde de trahison, c'est la signification que peut avoir le mot livrer. Livrer quelqu'un, on voit bien ce que ça veut dire. C'est pas comme livrer quelque chose, c'est livrer quelqu'un. Et oui, il y a quelque chose de pathétique et on pourrait se mettre en parallèle au fond le disciple que Jésus aimait et d'un autre côté celui qui trahit. Il ne s'aime pas beaucoup. On le voit bien quand le disciple que Jésus aimait va dire que c'était le traître, c'est lui parce qu'il aimait l'argent. Or ça, les hommes ne le disent pas, c'est un passage postérieur. Mais ici, nous sommes dans un moment dramatique, vous avez souligné aussi, Jésus est bouleversé. c'est pas un faire semblant. C'est-à-dire, ça nous aide à comprendre aussi, même si c'est grandiose dans Saint Jean, la passion n'est pas un faire semblant. C'est une véritable traversée dans la souffrance, dans le deuil et dans la souffrance même psychologique. C'est-à-dire, être trahi par les siens, mal compris par Simon-Pierre, trahi par Judas, c'est quelque chose de terriblement douloureux pour quelqu'un qui doit aller au bout de son chemin.
Ce mot livret, ce verbe livrer, il y aurait presque une expression un peu argotique aujourd'hui qu'on emploie un peu dans l'actualité, balancer. Balancer quelqu'un, donner quelqu'un. Mais si on revient à ce personnage de Judas qui est quand même très intriguant, c'est vrai qu'on a souvent tendance à le présenter soit comme un comploteur et un traître, c'est souvent ça qui vient à l'esprit, un pauvre homme cupide aussi, la cupidité de Judas. Mais il y a aussi une certaine théologie qui donnerait à penser que c'est un instrument incontournable et nécessaire du salut.
Difficile à dire, c'est-à-dire il faut avoir une lecture qui à la fois reprend les linéaments du texte, c'est-à-dire un destin avec tout ce que l'on imagine dans la vie d'un homme, avec des hommes plus ou moins parfaits, des gens qui ne sont pas fidèles, et puis en même temps, effectivement, l'enjeu d'un destin où, pour que Jésus puisse aller au bout de sa route, il lui faut quelqu'un qui le trahisse. La tradition juive, ou surtout la tradition chrétienne, va beaucoup s'intéresser à Judas. Et on a beaucoup écrit, je sais que vous êtes un familier de Judas dans vos lectures, mais Judas est très aimé et très tirant d'une certaine manière, comment comprendre au fond cette trahison de Judas ? Et vous savez sans doute que dès le 3e siècle après Jésus-Christ, on a écrit des récits sur Judas. Donc ça veut dire qu'on s'est passionné pour cette figure. Et certains, au 3e siècle en particulier, ont voulu voir dans son acte une sorte de décision qui voulait conduire au salut, qui voulait obliger Jésus à entrer dans l'acte définitif, au fond, de la sortie de la vie pour triompher de la violence, pour être le Seigneur absolu, et une sorte de façon de le pousser à son destin définitif. Certains même, l'évangile dont je vous parlais le signale, ils pensent que c'est Jésus lui-même qui l'aurait poussé à trahir pour que les derniers temps adviennent. Étonnant.
Alors, le titre de l'ouvrage auquel vous faites allusion, c'est « Judas, le coupable idéal ». C'est Anne Soupa qui a écrit ce livre récemment, là, chez Albin Michel. Parce que, est-ce qu'on peut pas, quelque part, tous se reconnaître un petit peu en Judas ?
Oui, je pense. D'abord, je dirais une chose quand même, parce que je crois que c'est très important par rapport à notre réflexion. La tradition chrétienne, très longtemps, a vu dans la figure de Judas une figure symbolique qui symboliserait les Juifs. Et cette lecture qui a été faite pendant longtemps a été évidemment dramatique, parce que Judas serait le symbole de tous les Juifs qui ont trahi. Et le cardinal Ratzinger, avec beaucoup de bonheur, mais malheureusement trop tardivement, en 2002, a fait publier un texte important, lire la Bible avec le peuple juif, en disant on n'a plus le droit de dire ça. Les Juifs n'ont pas trahi tous. Judas a trahi, mais tous ne sont pas infidèles. Et même ceux qui ont gardé la fidélité au peuple juif sont des croyants authentiques. Donc c'est une façon de dire Judas, oui, c'est lui, mais en même temps, puis la bouchée que vous évoquez, c'est très beau. Dans la tradition juive, on a d'autres passages. C'est ce qui arrive à Ruth, en particulier le livre de Ruth. Ici, la bouchée était un rite que quelqu'un faisait en faveur d'une figure, peut-être qu'il voulait privilégier, peut-être en difficulté avec lui, et on lui prenait une bouchée, on la trempait dans un jus particulier, et celui qui la recevait était invité à accueillir ça comme un don de celui qui lui donnait. Et Jésus, c'est ce qu'il fait avec Judas, en espérant peut-être qu'il se détourne de son projet, mais c'était la nuit, et il s'enferme dans la nuit, et c'est son destin qui va se jouer.
Alors nous allons achever la lecture du récit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, C'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. » La nuit est effectivement tombée, mais la conclusion du chapitre 13 est un des sommets de l'Évangile. Les disciples, par contre, à commencer par Pierre, ont du mal à comprendre les mots d'adieu de Jésus. Comment les interpréter, Père Alain ?
Je crois que vous avez raison, au sommet de ce chapitre, avec une focalisation sur le thème de l'amour, d'abord. C'est-à-dire, on pourrait noter, si on faisait une analyse linguistique, mais ce n'est pas notre lieu, évidemment, mais quand même, on peut remarquer que la thématique s'ouvre sur l'amour, et elle finit sur l'amour. Et l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour les hommes, et ici, l'amour des chrétiens les uns pour les autres. C'est-à-dire, vous voyez, quelquefois on dit que l'évangile de Jean ne donne pas beaucoup de place à l'Église. Ça veut dire qu'on ne met pas assez l'accent sur des points. C'est clair que la fin de ce chapitre met l'accent sur l'Église. C'est-à-dire, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, l'amour, ce qu'en grec on appelle l'agapé, c'est-à-dire l'amour absolu, c'est l'amour qui va au bout, l'amour qui dépasse tout ce que l'on... C'est pas l'amour simplement humain, non, c'est l'amour absolu. Ça culmine dans cet amour. Et le signe de l'Église aujourd'hui, nous dit saint Jean ici, c'est le fait que les chrétiens s'aiment. Donc vous voyez, c'est aussi un engagement très important qui nous est donné de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, c'est-à-dire non pas comparaison, mais comme une exigence absolue, difficile peut-être, mais qui définit au fond le royaume que Jésus est venu fonder dans le monde.
Alors il y a aussi cette phrase, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard ». Est-ce qu'on n'est pas là, finalement, au cœur aussi du mystère de la mort ? Ce passage mystérieux, cette épreuve mystérieuse qui nous attend tous.
Bien sûr, c'est-à-dire que ce passage par la mort, c'est le destin de l'homme. C'est-à-dire, là où je vais, tu me rejoindras. Et en même temps, tu me rejoindras à travers ta fragilité, à travers tes faiblesses. Vous voyez, c'est un chapitre... Quand on le relit, c'est vrai qu'on est ébloui peut-être par la splendeur de certains passages avec cette idée de l'amour, l'agapé, c'est-à-dire il n'y a rien de plus grand que l'amour. L'amour dans son côté oblatif, c'est pas un amour égoïste, c'est un amour qui se donne. Et comme le fait d'oser dire « comme je vous ai aimé », c'est pas une comparaison simplement, c'est plus qu'une comparaison, c'est un enracinement. C'est-à-dire, on est invité à aimer et notre histoire, le monde dans lequel nous sommes, celui que nous traversons jusqu'à la mort, c'est un monde qui doit être habité par l'amour. C'est véritablement un enjeu avec cette fin, vous avez senti vous-même, un peu pathétique, avant que le coq ait chanté, tu m'auras trahi, c'est-à-dire avec au fond cette thématique de la trahison qui marque finalement la fin du récit de l'Évangile. C'est assez pathétique finalement cette dimension de la trahison telle qu'elle est présentée.
Mais on ne va pas terminer sur le pathétique. Moi je retiens l'amour et puis en ce temps pascal, c'est effectivement une très bonne chose d'avoir pu relire ce texte avec vous, Père Alain, qui connaissait si bien l'Évangile de Jean et qui nous qui nous fait toucher du doigt un certain nombre de réalités, de significations profondes de ces textes. Merci donc à vous pour nous avoir aidé à décrypter ce texte. Merci à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être écoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Selon les Écritures. À très bientôt sur notre antenne.